Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce dimanche aura lieu le premier tour de la primaire chez les Républicains, un rendez-vous politique de taille qui suscite l'intérêt des Français. Pourtant, on ne peut pas dire que ces derniers ont une grande confiance dans la classe politique comme l'indiquent régulièrement les sondages. Ainsi, ce sondage BVA de novembre 2016 pour la presse régionale indiquant que 34% des Français n'attendent même rien du personnel politique. Les chrétiens aussi sont touchés par ce désenchantement et tentés par le tous pourri ou le à quoi bon. Une tentation à laquelle répond mon invité de ce matin. Ce matin, donc, cette émission Vivante Église, on va dire les chrétiens en politique, à l'occasion de cette année d'élection présidentielle, avec le père Mathieu Rouget, curé de la paroisse de Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris, professeur à la faculté Notre-Dame et ancien aumônier parlementaire, auteur d'un ouvrage intitulé « L'Église n'a pas dit son dernier mot », petit traité d'antidéfaitisme catholique aux éditions Robert Laffont. Vous, dans votre ouvrage, donc, qui porte bien son nom, vous essayez de pointer du doigt un certain nombre de raisons de ne pas désespérer pour les chrétiens aujourd'hui, même si ils sont très minoritaires. Et dans un de ces chapitres intitulé « Une église qui se trompe de siècle, point d'interrogation », vous listez un certain nombre de réalités. Alors vous dites que voilà, il n'y a pas, comment dire, les paroisses ne sont pas si vides que ça, les sanctuaires non plus. Voilà, vous citez bien d'autres exemples, et entre autres un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'élites, philosophes et autres, qui sont aujourd'hui chrétiens. Est-ce que vous pouvez nous redresser un petit peu un panorama que vous dressez dans cet ouvrage pour nous dire, même si cette église si ces chrétiens sont minoritaires, son influence est peut-être plus importante que son poids démographique.
Oui, puis d'abord, moi je crois qu'il ne faut pas non plus en rajouter sur l'église ultra minoritaire. Il y a quand même énormément de baptisés en France, là, et il n'y a aucune structure aujourd'hui qui est aussi importante finalement en France que l'église catholique. Et donc, avec toutes sortes de ramifications, et donc il faut sortir d'une espèce, il y a une espèce de syndrome minoritariste où on se complaît à se réduire en permanence. Non, il faut assumer le fait que les catholiques en France ne sont pas une majorité dominante, mais l'ont-ils d'ailleurs vraiment jamais été complètement? Et puis, malgré tout, il y a énormément de catholiques, il y a beaucoup de postes de responsabilité, et puis les catholiques sont quand même très présents à travers tout notre pays. Alors, je suis tout à fait lucide, hein, je sais bien que le monde entier ne ressemble pas à ma paroisse de l'Ouest parisien, mais je crois qu'il faut quand même le dire. Et, de fait, je trouve que c'est frappant de voir que, en France aujourd'hui, dans le monde universitaire, par exemple, il y a beaucoup de personnalités de premier plan qui sont des catholiques engagés, assumés, et dont la foi pénètre aussi l'œuvre. Prendre des exemples, par exemple, chez les philosophes. Parmi nos philosophes les plus connus dans le monde, il y a quelqu'un comme René Girard, qui est mort il y a quelques années, mais dont l'œuvre reste extrêmement importante pour la pensée contemporaine, qui a toujours eu un rapport fort avec la foi catholique, et un rapport qui s'est approfondi, il n'a pas hésité à le raconter d'ailleurs, et qui s'est vraiment réenraciné, et sans doute un des philosophes français les plus connus aux États-Unis par exemple, puisqu'il a fait l'essentiel de sa carrière là-bas. Un autre penseur très connu aux États-Unis parce qu'il enseigne à Chicago, c'est Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion d'ailleurs a succédé à Chicago à Paul Ricoeur, qui lui-même était un protestant profondément assumé, mais vraiment un chrétien de haut vol, qui a beaucoup marqué la réflexion en France. Et Jean-Luc Marion est aussi un catholique très enraciné, un des animateurs de la revue Communio dans la version française depuis le début.
Donc grande revue de théologie.
De théologie, intime de Balthazar, de Ratzinger, des plus grands théologiens. On pourrait prendre d'autres exemples. Je ne dis pas que le monde universitaire tout entier est catholique, bien entendu. Il est traversé de toutes sortes de débats. Il y a beaucoup d'hostilité à la parole chrétienne dans les milieux intellectuels en France aussi. Mais il y a plus de catholiques qu'on ne croit. Et même le monde médiatique, qui est sans doute un des plus hostiles, eh bien, il est rempli de chrétiens, parfois un peu isolés, et parfois un peu
Vous iriez jusqu'à dire rempli de chrétiens ?
Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, mais qui sont souvent isolés. Et en plus, un peu découragés, parce que là aussi, il y a une manière de diaboliser absolument tout le monde audiovisuel qui est excessive. Donc je crois qu'il faut sortir de cette espèce de syndrome de la minorité assiégée, mais ne pas non plus être naïf sur la difficulté des temps que nous vivons, mais après, s'encourager mutuellement, aller aussi sur les terrains où il faut s'impliquer. Et aujourd'hui, les moyens de communication, puisque nous avons évoqué ce sujet-là, se sont multipliés. Et donc, c'est aussi des opportunités qui se sont multipliées. Donc, il faut aller dans ce monde à évangéliser.
Voilà, ça paraît évident pour vous, mais c'est vrai que ça l'est probablement pas pour un certain nombre d'auditeurs. On a plutôt l'impression que la période est à la crispation et à la défiance, malgré tout. C'est votre sentiment aussi ou...
Oui, la période est souvent à crispation et à la défiance, mais si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les catholiques en France, tout en gardant leurs convictions et en étant prêts à les défendre avec la plus grande vigueur, soient aussi capables d'entrer en dialogue et puis de faire, pour moi c'est très important dans le champ politique, des propositions. Parce qu'il y a plein de domaines où personne ne sait ce qu'il faut faire. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a quelques zones noires, des continents inexplorés et pourtant importants pour la vie collective dans les programmes présidentiels de toutes écuries et toutes couleurs politiques confondues. Et il y a des tas de sujets sur lesquels on ne sait pas que faire.
Vous pensez à quoi par exemple ?
Mais par exemple dans le domaine éducatif. Dans le domaine éducatif, il y a une espèce de prêt-à-penser général auquel tout le monde se rallie et dont on voit bien qu'il ne porte pas les fruits qu'on devrait y voir. Et donc là, il y a plein d'initiatives, il en existe certaines d'ailleurs, hein, mais plein d'initiatives à multiplier pour apporter des propositions nouvelles. Dans le domaine aussi de la lutte contre la précarité, là aussi, il y a beaucoup d'initiatives de la part de chrétiens qui sont vraiment remarquables, mais elles peuvent se multiplier, se faire mieux connaître, devenir plus emblématiques et être prises aussi par les décideurs publics.
Alors dans votre ouvrage, parmi les choses que j'ai relevées, vous soulevez comme un paradoxe pour le chrétien, à la fois ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un juste rapport à la politique, la nécessité de l'engagement, des places à prendre, des sujets à traiter, si je vous ai bien compris, mais aussi que le chrétien, est toujours, alors c'est un peu impensif de dire ça, mais toujours en pèlerinage. Et vous citez comme ça une lettre à Diogène disant la chose suivante, je crois même que c'est le cardinal Lustiger qui, la prenait souvent à son compte, si je ne me trompe pas, les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes ni par le pays, ni par la langue, ni par les vêtements, ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires, résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Est-ce là une précision importante aussi et une manière en fait d'aborder librement la chose politique.
Ce texte que citait peut-être dans Carnet le sujet, mais là c'est moi qui le cite, c'est la lettre à Diognète.
Pardon, Diognète, excusez-moi.
Et c'est important parce que c'est un texte vraiment que tous les laïcs catholiques devraient connaître.
Chrétien laïque du deuxième siècle, non pas
c'est,
Diogène. Oui.
C'est vraiment la charte de la vie laïque, de la vie du chrétien dans la cité, qui reprend le paradoxe de Saint Jean. Être dans le monde sans être du monde. Les chrétiens ne vivent pas entre eux dans des camps retranchés, ils vivent dans la cité, ils travaillent, ils sont dans les mêmes lieux que les non-chrétiens dans notre cité pluraliste, et en même temps, ils sont appelés à une vie radicalement différente, parce qu'elle est reçue de Dieu et offerte à Dieu, parce qu'elle est marquée par l'évangile, parce qu'elle est en perpétuelle recherche de progrès dans l'amour, dont le Christ nous a donné l'exemple et dont son esprit nous donne la force. Et donc, le chrétien est totalement dans le monde et appelé à ne pas être du tout du monde, c'est-à-dire prisonnier des logiques mondaines. Thème cher au pape François. Et en fait, le risque, parfois, c'est l'attitude inverse. C'est-à-dire que les chrétiens restent entre eux, mais soient prisonniers des mêmes logiques, de petites ambitions et de grandes mesquineries que le reste du monde. Et donc, il faut faire un travail de conversion pour être vraiment dans le monde, mais en même temps ne pas être du monde, vivre vraiment de l'évangile, et les temps difficiles dans lesquels nous sommes nous acculent à une conversion supplémentaire. Moi je pense que le martyr du père Hamel l'été dernier est pour nous tous une invitation à un sursaut spirituel. On ne peut pas vivre en France aujourd'hui comme des chrétiens tièdes qui vont à la messe une fois de temps en temps et qui prient s'ils n'oublient pas de le faire et qui ne mettent pas la charité dans toute sa variété d'expression au premier plan. Les temps sont durs, Nous sommes entrés dans le temps des martyrs, c'est quand même impressionnant. Et donc, la réponse à ça, c'est pas la crispation, c'est pas la peur, mais c'est l'engagement spirituel et l'engagement de la charité.
Voilà, c'est pareil, ça va sans dire, mais donc c'est évidemment pas spécialement évident aujourd'hui. Je rebondis sur un autre aspect. À un moment, vous parlez de persécution spirituelle. Alors vous dites, on est entré dans le temps des martyrs. Cette expression de persécution spirituelle, vous la reprenez à Bertrand Vergely, donc philosophe orthodoxe. Est-ce que vous pouvez nous développer ce thème? Qu'est-ce qu'il veut dire par persécution spirituelle? Les chrétiens peuvent comprendre aujourd'hui, mais la manière dont il le développe, j'ai trouvé, était intéressante.
Oui, de fait, d'abord, Bertrand Vergely est un homme remarquable, un philosophe orthodoxe, aux positions à la fois très profondes, à l'écriture très riche, et puis qui a une grande ferveur et une grande ardeur. C'est-à-dire que il y a tout un monde d'idées reçues, ce qu'on appelle parfois le politiquement correct, mais plus largement que cela, qui viennent à l'encontre de notre vision chrétienne de la vie, du service, de l'amour, de l'espérance. Et si nous ne sommes pas attentifs à nous régénérer sans cesse, eh bien nous pouvons entrer dans une dureté, dans une morosité, dans une désespérance, dans un déclinisme qui est très répandu autour de nous, mais qui n'est pas conforme à notre grâce de chrétien. Et donc, il ne faut pas se laisser...
Donc la persécution spirituelle, c'est entendu comme une manière de se vivre comme un persécuté. Ce serait pas une réalité.
Je pense que la réalité des idées ambiantes, des dictats d'une certaine pensée unique, de la manière dont tout le monde tient pour acquis un certain nombre d'idées, vraiment, de manière objective, peut venir à l'encontre de ce que le chrétien a le plus cher, la foi, l'espérance, l'amour.
Alors un peu plus loin dans votre ouvrage, vous développez différents thèmes. Entre autres, il y a un chapitre qui s'appelle « Hommes et femmes, il les créa », et puis « Une église pour les pauvres », qui reprend, en fait, pas tout à fait, hein, la fameuse expression du pape François, « Je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». J'ai retenu ces deux thèmes un peu, comme je vous avais dit, comme deux prophéties de l'église aujourd'hui. Alors est-ce que j'ai bien compris votre ouvrage? Vous dites que les chrétiens ont à investir le champ politique, à s'y intéresser, à s'y engager, etc. Mais qu'ils auraient en fait deux grandes pierres clés à apporter, qui seraient ces deux-là.
Ça n'a rien de limitatif, mais je pense qu'aujourd'hui on est sur, il y a deux sujets très importants. D'une part parce que l'option préférentielle pour les pauvres a été comprise par l'Église comme vraiment une sorte de lame de fond de sa doctrine sociale. Les pauvres d'ailleurs dans toute leur extension, aussi bien l'enfant à naître, la personne en fin de vie que la personne en grande précarité sociale ou la personne handicapée. Et donc l'amour des pauvres est la vérification de l'authenticité de l'amour. Et dans une société très dure, et notamment dure pour ceux qui n'arrivent pas à entrer dans le moule commun, la mission de l'Église d'être aux avant-postes de la charité est toujours plus urgente. Et puis c'est vrai que le rapport homme-femme est vraiment structurant.
Je reste sur le premier point. On va dire la priorité aux plus pauvres, c'est évidemment quelque chose que l'Église a toujours dit et défendu. Vous dites aujourd'hui que dans le contexte, on va dire, français actuel ou mondial, c'est une parole qui doit être particulièrement portée.
C'est une priorité de toujours, donc c'est une priorité aujourd'hui. Et il y a des circonstances aujourd'hui dans la mondialisation, dans la société du numérique, l'homogénéisation des processus et des itinéraires, qui font qu'il y a des souffrances nouvelles pour les pauvres. Le pape François a dit pendant le jubilé des personnes sans domicile fixe que il y avait une sorte d'augmentation de l'exclusion proportionnée au progrès économique et matériel. Et voilà, c'est cette réalité qui fait que l'option pour les pauvres est encore plus urgente aujourd'hui qu'autrefois. Alors je reviens à votre deuxième question. Le rapport homme-femme est vraiment structurant de l'identité humaine. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un rapport que notre société a beaucoup de mal à assumer, à comprendre, à approfondir, à décrypter. Or, comme chrétiens, comme dépositaires de la tradition biblique, nous savons que notre authenticité humaine passe par notre rapport heureux à cette différence entre l'homme et la femme, qui est l'unité dans la distinction, où chacun, ou homme ou femme, reconnaît qu'il a besoin du rapport à l'autre sexe pour entrer dans une expérience complète de l'humanité, que personne à lui seul ne peut faire une expérience intégrale de l'humanité, ce qui va à l'encontre d'une volonté de puissance que le progrès technologique stimule parfois. Et donc, comme chrétiens, nous avons à annoncer constamment la bonne nouvelle de l'homme et de la femme.
On le dit souvent à cette antenne, en fait, sur ce sujet, pour le coup, on a du mal à, comment dire, à faire le lien avec ce que vous disiez en première partie, quand vous disiez que les hommes politiques que vous avez croisés, entre autres les parlementaires, étaient souvent ouverts à la discussion et pourquoi pas, comment dire, curieux, voire intéressés d'entendre la voix de l'Église. Parce que sur ce sujet, on a l'impression qu'il y a une fracture anthropologique, alors on en parle souvent, qui ferait que les chrétiens défendraient une anthropologie qui aujourd'hui ne serait plus l'anthropologie de la majorité des Français.
Alors d'abord,
c'est votre point de vue ou pas ?
Vous ne m'entendrez jamais parler d'hommes politiques, mais de responsables politiques, parce que précisément, il faut bien reconnaître que, et s'en réjouir qu'il y a des hommes et des femmes politiques. Donc le chrétien doit être en dialogue avec le monde et donc veiller aussi à la justesse de sa parole. Et après ça, moi j'ai rencontré des responsables politiques tout à fait disposés à entendre une parole sur ces sujets-là. Mais encore faut-il la dire avec conviction, avec réflexion, et puis ne pas manquer les occasions de la dire. J'évoque dans le livre un jour qui m'a beaucoup frappé, où il y avait une mission d'information parlementaire sur la famille et le droit des enfants, qui désirait auditionner une autorité ecclésiastique pour non seulement avoir des repères éthiques du point de vue de l'Église, mais aussi des propositions nouvelles pour mieux accompagner, par exemple, les familles. Et j'avais averti, j'étais en contact avec l'autorité ecclésiastique et avec la responsable politique qui menait ces auditions, que les politiques étaient en attente de propositions. Et puis quand l'autorité ecclésiastique est venue, cette personne a très bien défendu quelques positions éthiques, et quand on lui a dit « avez-vous des propositions ?», n'avait rien à dire. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a des débats qui ne sont pas faciles. Oui, bien sûr, il y a des fermetures idéologiques. Mais il y a aussi des occasions de proposer, d'avancer, de dialoguer que les chrétiens ne saisissent pas. Alors avant de nous désoler de certaines fermetures, commençons par profiter de toutes les ouvertures qui existent.
Merci beaucoup Mathieu Rouget. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Église n'a pas dit son dernier mot, petit traité d'antidéfaitisme catholique aux éditions Robert Laffont. On fait une première pause et puis après, on va parler un petit peu plus des prochaines élections, un peu plus encore, entre autres en faisant écho donc à cet ouvrage de la Conférence d'évêques de France sorti récemment dans Un monde qui change, retrouver le sens du politique.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église, les chrétiens en politique, donc avec le père Mathieu Rouget, qui, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, est curé de la paroisse Saint-Ferdinand d'Éternes à Paris, professeur à la faculté Notre-Dame et l'ancien aumônier parlementaire, des parlementaires. À la fin de cette émission, je voulais vous poser un certain nombre de questions donc autour des prochaines élections présidentielles. Alors, des questions peut-être un peu plus précises ou incisives que les précédentes. Entre autres, donc dans ce document que j'ai cité à plusieurs reprises, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, publié par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France aux éditions Bayard, Serre et Mame. Il est fait mention plusieurs fois de la peur de de la conférence d'évêques de France, d'une crispation identitaire. Donc on voit évidemment la question qu'il y a derrière cela. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, vous, Mathieu Rouget?
De fait, je pense qu'il y a deux écueils, la crispation identitaire ou la dissolution sans identité, et que la foi chrétienne nous donne, j'ai déjà évoqué avec ce que dit Saint Jean, être dans le monde sans être du monde. La foi chrétienne nous donne une capacité à l'enracinement et l'ouverture. Donc je pense que l'antidote à la crispation identitaire, ce n'est pas seulement l'ouverture, c'est l'enracinement profond. Et que la juste attitude des chrétiens, elle est à la rencontre de l'enracinement le plus profond, de la foi la plus ardente, et de l'engagement au service de tous, et de la capacité de dialogue. Donc il ne s'agit pas de penser qu'il y a un jeu de vase communicant entre l'ouverture et l'enracinement, mais au contraire, de dire que le chemin de l'ouverture véritable, c'est la profondeur effective de l'enracinement intellectuel et spirituel.
Mais pour être plus précis encore, quand on lit aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion qu'il y aurait 25% des catholiques pratiquants aujourd'hui qui voteraient Front National, quand on entend Jean-Frédéric Poisson dire qu'il faut lever le cordon sanitaire, je ne sais pas si c'est exactement l'expression, mais en tout cas c'est l'idée, avec justement l'extrême droite, enfin appelée comme telle, avec le Front National, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ce sujet?
Moi, je me refuse totalement à prendre quelque position que ce soit en matière partisane, surtout dans des moments extrêmement sensible du point de vue du choix des uns et des autres, mais pour moi ce qui est certain, c'est que l'enracinement intellectuel et spirituel est ce qui permet de faire preuve de discernement, de mesure et de cultiver sans crainte le sens à la fois du concret, des priorités économiques, des priorités sociales. Donc oui, je pense que il suffit pas de dire, de répéter attention crispation. Donc ça c'est important de veiller à ne pas être crispé, mais il faut surtout se donner les moyens intellectuels et spirituels de l'enracinement, et à partir de là, on respire et on peut discerner et se situer de manière juste.
Et vous avez l'impression globalement que c'est ce que font les chrétiens aujourd'hui ou?
Alors c'est difficile. Je pense qu'il y a. Je suis frappé de voir, par exemple, le nombre de gens, et d'ailleurs ce petit document peut y contribuer, le nombre de gens qui profitent de l'année électorale pour se former, pour travailler. Si je viens à Toulouse, c'est pour participer à un cycle de formation.
Avec passion et espérance.
Et je vois que je vais pas mal cette année tourner à droite et à gauche pour des occasions de formation de ce genre-là, avec des prêtres, avec des laïcs, avec des jeunes, et beaucoup d'autres prêtres comme moi et de laïcs aussi le font. Et donc je pense que aujourd'hui il peut y avoir chez tel ou tel une tentation de repli, mais je pense que la majorité des chrétiens sont en attente de formation, de réflexion, est tout à fait capable de se situer avec discernement et justesse.
Alors, il y a autre chose que j'ai noté dans ce document, entre autres cette phrase « Plus que jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué. » Et puis un peu plus loin, c'est un travail de refondation auquel il nous faut ensemble nous atteler à lire en fait cette lettre. En général, la lettre des évêques est assez mesurée, très, très, très tempérée, très pondérée. Et là, quand même, on sent qu'il y aurait pour la France un moment clé. Et enfin, si les mots ont un sens, un travail de refondation, c'est pas rien. Qu'est-ce que vous avez compris
dans ces mots,
ces mises en garde?
On voit bien qu'aujourd'hui, on a une société extrêmement éclatée, marquée par énormément de violence, et donc ce constat, il s'impose. Et il serait étonnant qu'il ne soit pas fait par les évêques. Donc ce constat est important et il s'impose. Et la réponse à cela, j'aime bien ce terme de refondation, par l'approfondissement. D'ailleurs, nous allons avoir bientôt...
Alors, ils ne disent pas par l'approfondissement, c'est vous qui l'avez
dit. Oui, mais le fondement, c'est la profondeur, vous voyez. Et nous allons avoir bientôt, à la Conférence des évêques de France, précisément un colloque avec des intellectuels catholiques ou non, sur ce thème de la refondation du politique, organisé par l'Observatoire Foi et Culture des Conférences des évêques de France et l'Académie catholique de France, au nom de laquelle je suis partie prenante de ce colloque. Et ça me semble tout à fait important de se demander pourquoi on agit. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour retrouver le sens du politique, c'est le titre du document, c'est d'avoir du mal à expliciter des valeurs communes pour notre société. Et donc, pour pouvoir dépasser l'éclatement, il faut faire un travail de réappropriation, de refondation des raisons de vivre ensemble, des raisons d'être vraiment dans une cité, d'être dans une relation politique les uns avec les autres. Donc, il y a un constat très légitimement de prise au sérieux des difficultés d'aujourd'hui, et puis cette ouverture vers un travail de refondation me semble très appropriée.
Pour revenir sur cette question des valeurs communes, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple deux jeunesses comme Nuit Debout ou comme Les Veilleurs, on peut se dire, certains votes, on va dire, qualifiés d'extrême droite ou qualifiés d'extrême gauche, en tout cas, dans la jeunesse, on va dire, ces deux mouvements incarnés, deux aspirations profondes de la jeunesse, on se dit qu'ont ces jeunes en commun et comment demain vont-ils réussir à faire, une seule nation? Qu'est-ce que vous répondriez si vous deviez choisir quelques valeurs clés qui, à votre avis, feront que la France continuera à tenir malgré ces divisions?
Je suis pas sûr que ce soit ces divisions-là qui soient les plus significatives. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments communs aussi à tous les jeunes, ne serait-ce que leur rapport aux moyens de transmission, d'information, etc. Je pense que la vraie différence, et pour le coup, elle ne recoupe pas du tout sur le plan politique les distinctions que vous faites, parce que beaucoup de jeunes d'une certaine jeunesse pourraient voter aussi bien pour l'extrême gauche que pour la
comparaison était maladroite. Je disais pas que tous les veilleurs étaient extrême droite.
Il y a quand même ceux qui ont l'impression d'être dans une perspective d'avenir et ceux qui ont l'impression d'être sans perspective d'avenir. Et donc c'est la responsabilité de tous, et en particulier de ceux qui savent qu'ils ont des perspectives d'avenir, de se soucier de la société en général, et c'est toute l'importance de l'investissement sur l'initiative économique, sur l'éducation, sur le fait de ne pas accepter que un grand nombre de personnes, et de jeunes notamment, soient laissés de côté par la société telle qu'elle bouge.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas inquiet, vous ne trouvez pas qu'il y a un risque de division de la société française, où il y a deux France un peu irréconciliables?
Je ne pense pas que ce soit deux France irréconciliables. Je crois que il y a des questions très très difficiles, hein, aussi la question religieuse, et une forme de refuge dans l'islam politique est évidemment une vraie question pour l'avenir. Mais si vous voulez, il ne suffit pas de dire « je suis inquiet ». Il y a une situation où il y a des tensions, il y a aussi des raisons de penser que la France a des atouts. Et donc, il ne s'agit pas de se répéter ses inquiétudes, mais d'agir, de chercher, de travailler sur le plan intellectuel, sur le plan local, sur le plan social, sur le plan associatif, sur le plan institutionnel, pour faire advenir le maximum de facteurs de paix.
Un peu plus loin, toujours dans ce document, je posais récemment la question à ce même micro donc à un certain nombre d'évêques lors de l'assemblée plénière d'automne, donc à Lourdes, des évêques de France. Il est dit la chose suivante, qu'est-ce qui fait qu'une vie, alors s'interrogeant sur la question du sens en politique, et les évêques posent cette question, qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être donnée aujourd'hui? Pourquoi suis-je prêt à donner ma vie aujourd'hui? Alors je le disais aux évêques, c'est vrai que dans un ouvrage comme ça, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce que la politique, ça va jusque-là, d'une certaine manière?
En tout cas, je pense que la politique passe par une vision de ce vers quoi va la société. Et qu'une tentation pour certains politiques, c'est d'en rester à un regard technique sur la société, ce qui marche, ce qui ne marche pas, les mesures qu'on pourrait prendre, sans les inscrire dans une vision d'ensemble. Et si on n'a pas un minimum de réflexion, de vision construite sur ce qu'est la société, sur ce vers quoi elle peut marcher, alors, d'une part, on a du mal à trouver les mesures justes, on a encore plus de mal à construire une cohérence politique, et souvent aussi, on n'a pas les ressources qui permettent de mener à bien les projets qu'on a élaborés. Et donc, je crois que c'est très important pour les politiques d'avoir une vision de ce qu'est la société, de ce qu'elle peut être aujourd'hui, de ce vers quoi elle doit marcher.
Mais ma question était plus précise que ça, c'est-à-dire que poser la question de donner sa vie dans un ouvrage sur les élections présidentielles d'une certaine manière, ou sur la chose publique, sur la politique, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce qu'il faut s'engager jusqu'à être prêt à donner sa vie en politique? Alors, pourquoi cette comparaison?
Cette remarque-là, elle vient un peu en incise d'une réflexion sur le sens à donner à l'action politique. Mais clairement, si on pense par exemple à ce qui va motiver des Français engagés sous les drapeaux à donner leur vie pour défendre ce que la France souhaite défendre en Afrique, au Moyen-Orient, bah, cette question, elle est vraiment posée. Et donc, au nom de quoi aujourd'hui la France peut engager des militaires à donner leur vie pour défendre un ensemble de choses communes? Oui, ça s'inscrit légitimement dans cette vision.
La dernière chose, c'est que donc, dernière chose dont je voulais parler avec vous, c'est qu'il y a un des derniers chapitres qui parle de la crise de la parole. Alors on l'entend souvent, c'est battu et rebattu, les Français ont du mal à croire leurs hommes politiques, la parole publique est entamée. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré comme critique?
Non, moi je trouve que c'est tout à fait ajusté comme critique, et pour moi ça va plus loin encore, c'est qu'il y a une énorme crise de la vérité. C'est tout le thème du relativisme développé par Benoît XVI et à sa manière par le pape François aussi d'ailleurs, qui est que beaucoup de politiques diraient volontiers que la vérité n'existe pas, comme beaucoup de nos contemporains. Et à partir du moment où on disqualifie la réalité même de la vérité, on disqualifie les possibilités rationnelles de se retrouver dans une société globale. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on attend des politiques qu'ils aient un sens renouvelé de la vérité, non seulement dans la parole, mais aussi dans la recherche rationnelle qui précède la parole.
Vous dites à un moment dans votre ouvrage, donc l'Église n'a pas dit son dernier mot, que les Français ont un peu un rapport ambigu à la vérité. C'est-à-dire qu'à la fois, je crois que vous citez Michel Onfray sur ce sujet, si je ne me trompe pas, vous dites à la fois qu'ils recherchent la vérité, en même temps ils s'en défient, et en même temps il y a une recherche d'absolu. Est-ce que vous voulez préciser ce que
je dis surtout, c'est qu'il y a beaucoup de nos contemporains, par exemple dans les milieux éducatifs, pour moi une des crises fondatrice de la crise de l'éducation, c'est le refus de la vérité. À partir du moment où on n'a plus de vérité à chercher et à transmettre, alors on n'a plus de système éducatif qui tienne, même si bien sûr la vérité est toujours plus grande que ce qu'on en connaît, et les chrétiens le savent, puisque la vérité ultimement, c'est simplement le visage du Christ. Mais donc il y a aujourd'hui, il y a une sorte de disqualification de la vérité. Dès qu'on parle de vérité, on peut être taxé d'intolérant, de potentiellement violent. Mais en même temps, il y a un désir, un besoin de la vérité dans le cœur de l'homme dont on ne peut pas se débarrasser. Et donc même s'il y a un relativisme théorique et pratique invasif, la nature humaine elle est insolide et l'intelligence humaine, le cœur humain a besoin de vérité et c'est cela aussi qui peut nous sauver.
Chose que vous aviez remarqué parmi les hommes politiques que vous aviez fréquentés aussi, au fil des conversations, vous sentiez que de fait il y avait cette recherche de la vérité?
Oui, je crois que je peux dire ça.
Vous auriez un exemple qui vous reviendrait en tête?
Alors après, il y a des exemples qui sont du domaine de l'intime, Mais il me semble que on peut partir de quelqu'un qui pourra déclarer que la vérité c'est un mot compliqué, que finalement chacun sa vérité. Et puis si on va un peu plus loin dans la réflexion, on voit bien qu'il y a un moment donné où il faut pouvoir choisir de dire que ceci est vrai et que cela ne l'est pas, et qu'il y a des vérités qui méritent qu'on se batte pour elles.
Eh bien, merci beaucoup, Père Mathieu Rouget, d'être venu ce matin au micro donc de Radio Présence pour cette émission Vivante Église. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Église n'a pas dit son dernier mot, petit traité d'antidéfaitisme catholique aux éditions Robert Laffont. Vous inaugurez peut-être une série d'émissions politiques à l'occasion de cette élection présidentielle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.